Sur ce sentiment inconnu, dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Vous le savez, chers auditeurs, il n'y a que des remèdes éphémères à la mélancolie. C'est pour ça que nous sommes toujours là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Corinne Valente, Laure Grand Besançon et Jeanne Paravert, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez, aujourd'hui à la technique, Céline Guérini. La gourmandise de ce matin, c'est le film d'horreur grand-guignolesque réalisé par Sam Raimi en 2009 et intitulé « Jusqu'en enfer ». L'histoire est simple, pour gagner l'estime de son supérieur, une jeune employée de banque chargée d'accorder des prêts immobiliers refuse de prolonger l'hypothèque d'une vieille femme. Erreur fatale, la vieillarde humiliée jette un sort à l'employé qui se retrouve hanté par un terrible démon. Après 3 jours de persécution terrestre, l'héroïne à la blondeur angélique sera emmenée en enfer pour l'éternité. Le film effraie autant qu'il fait rire par son cocasse outrancier. On assiste à un festival de sécrétions jaillissantes, toujours évidemment en direction de la tête de l'héroïne. L'immonde côtoie un burlesque rafraîchissant qui macule de façon jubilatoire la surface d'une Amérique aseptisée, à ne pas voir en mangeant ni avant de dormir. Artiste autodidacte, notre apothicaire de l'âme interroge sans relâche la mémoire, l'absence, la mort et l'inconscient. Dans ses œuvres, enfants et défunts cohabitent avec gravité dans des mises en scène surprenantes. Celui qui se définit comme minimaliste expressionniste collecte des fragments de vie et crée des monuments pour honorer les humains. Quel garçon était-il ? Je cite ces mots pour répondre. J'étais perdu, je refusais d'aller à l'école, je ne parlais presque pas, j'étais idiot. Né dans une famille moins compréhensive, j'aurais probablement fini à l'asile. Et puis un jour, j'ai fait un petit truc en pâte à modeler et on m'a dit que c'était très bien. J'avais trouvé ma voie, travaillé sur son malheur guéri, tient la souffrance à distance. Adolescent, André Breton lui déconseille la peinture. Vous avez l'air très gentil, ne devenez pas artiste, ils sont tous méchants, c'est un sale milieu. Notre apothicaire ne l'écoutera pas et passera les décennies suivantes à imaginer de nouveaux mythes avec des tableaux, des sucres, des vêtements, des boîtes, des photos, des films, des ampoules, des voiles, des sons ou des ombres. Obsédé par le temps qui passe, l'artiste a vendu sa vie en viager à un collectionneur. Jusqu'à sa mort, il sera filmé dans son atelier par 4 caméras retransmettant en direct les images à l'acheteur. En 2010, le collectionneur a parié sur une disparition dans les 8 ans. Nous sommes en 2019, notre invité est donc une mauvaise affaire puisqu'il est toujours en vie et ne prévoit pas de mourir bientôt. Son agenda est rempli jusqu'en 2023 et en ce moment une impressionnante rétrospective lui est consacrée au Centre Pompidou. Christian Boltanski, bonjour.
Bonjour.
Christian Boltanski, ma première question est toujours la même. Quel est votre rapport à la mélancolie ?
Je suis un homme extrêmement joyeux. J'aime énormément la vie. Et en même temps, je sais que tout est terrible. Et que la vie est une horreur. Et que les hommes peuvent devenir monstrueux très facilement. Et qu'en gros, ça se termine mal. Mais vous savez, il y a un truc que j'aime beaucoup dans Proust. C'est un homme qui vient de perdre sa femme. Et puis deux amis le prennent sous le bras, l'amènent dans le jardin, ils marchent. Et cet homme qui est si malheureux dit « Oh, comme ces fleurs sont belles. Oh, regardez, il fait beau aujourd'hui. » Il fait « Ah, j'avais oublié. » Et je pense qu'on ne peut vivre que parce qu'on oublie. Et qu'en fait, on s'agite, et moi je m'agite beaucoup, dans le seul but d'oublier. Et dans mon activité, je sais que la seule chose que je devrais faire, c'est de ne rien faire. Mais c'est tellement dur de ne rien faire que je voyage tout le temps, j'ai des projets. Je sais que tout ça est totalement inutile, mais c'est simplement une manière d'oublier notre destinée.
Vous avez peur, Christian Boltanski, de vous retrouver face à vous-même dans le vide ?
J'ai peur pas face à moi-même, j'ai peur face aux questions qui se posent à nous tous et dont naturellement il n'y a aucune réponse. Et puis le monde est en même temps beau et effrayant, tout est effrayant.
Dans votre œuvre, il y a beaucoup cette dualité du monde, cette dualité de l'homme. Vous montrez des gens qu'on considère, pour résumer, comme des monstres et vous montrez leur dualité, vous les montrez dans des situations où ils s'amusent, où ils sont humains.
Oui, un criminel peut devenir victime parfois, et de toute façon, le criminel n'est pas différent physiquement de la victime. et que nous-mêmes, nous ne savons pas ce que dans certaines circonstances nous pourrions faire. J'ai ben souvent en Allemagne, qui est un pays que j'aime bien, et j'ai beaucoup d'amis allemands de mon âge, et donc je leur dis « Comment était ton père ?»« Ah, mon père, c'est un type formidable. » Et puis je leur dis « Il était au parti nazi ?»« Ah oui, il était au parti nazi. » Et donc le père était sûrement un type formidable, mais il était aussi au parti nazi, et l'un n'empêche pas l'autre, mais disons, il y a chez chacun cette possibilité du mal.
Quand vous étiez professeur aux Beaux-Arts, Christian Boltanski, vous disiez à vos élèves « Il faut attendre et espérer ».
Ben, c'est la seule chose qu'on peut faire en art, c'est attendre et espérer. Et on attend et on espère qu'un jour, on comprendra un tout petit peu mieux ce qu'on doit faire. Mais comme je vous le disais, c'est tellement dur d'attendre. C'est tellement difficile. C'est tellement plus facile de se dire, oh, faut que je me lève demain matin à 7h. J'ai un avion pour Francfort pour voir le docteur Pchoum Pchoum Pchoum.
Très et, bon docteur.
S'il n'a aucun espèce d'intérêt. Mais au moins, on sait qu'on a une chose à faire. Alors que si, ce qui est mon activité tout de même principale, de regarder la télé, coucher sur un lit, ou d'être assis sur une chaise à se gratter le nez, c'est une vie très très difficile. Je pense souvent que dans l'activité que j'ai, il faut réussir à se vider complètement, à ne rien faire, arriver dans un état de dépression, et donc la télévision est parfaite pour ça, surtout les émissions du matin. Et donc je regarde ça en muet habituellement, et donc parfois au bout d'un certain temps, de malheur, en quelque sorte, on a l'impression qu'on avance un tout petit peu.
On sait en tout cas ce qu'on a à faire dans l'heure qui vient, Christian Boltanski. Il n'y a pas de télévision ni de dépression au programme. Vous allez convoquer Fellini, des larmes évidemment, des vols long courriers, Pérec, La recherche du divin, Serge Gainsbourg, Gérard Depardieu et Tadeusz Kantor, juste après un morceau de Clara Luciani, ma sœur, dans la playlist France Inter.
Nous avons des cœurs siamois et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré et rien ne peut nous résister puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais
personne, personne, je serai la même s'il ne
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie de Christian Boltanski.
Vorrei vivere in una città nuova e non incontrare più nessuno.
A me invece Roma piace moltissimo. È una specie di giungla, tiepida, tranquilla, dove ci si può nascondere bene.
Anch'io vorrei nascondermi, ma non ci riesco. Non ci riesco. E adesso cosa si fa?
Facciamo un giro, restiamo.
Che Roma, che noia. Mi ci vorrebbe un'isola.
Se la compri?
Ci ho pensato. Ma poi ci andrei.
Sa qual è il suo guaio? Di avere troppi soldi.
E il tuo di non averne abbastanza.
1960, la Dolce Vita de Fellini, soit Marcello Mastroianni en chroniqueur mondain, brillant et désabusé, qui esquive sa mélancolie dans les sensuelles, burlesques et tragiques agitations romaines. Dans l'extrait précédent, il sort d'une fête avec la bourgeoise interprétée par Anouk Aimée, et puis elle plaisante en disant qu'elle aimerait être sur une île déserte. Il lui dit « Vous n'avez qu'à vous en acheter une ». Elle dit « Ça ne changerait rien ». Il rétorque « Savez-vous quel est votre malheur? Vous avez trop d'argent ». Et elle conclut « Et vous ?» Pas assez. Christian Boltanski, vous me disiez hors antenne que l'art, ça venait de l'artifice. Fellini, ce n'est pas anodin, c'est un des hommes qui a le plus idolâtré l'artifice.
Oui, c'est ce qui est une chose belle de l'art, c'est que on est montreur. Et on est montreur, et ça c'est la vieille histoire de l'acteur, c'est-à-dire que on n'a pas soif, mais on montre au spectateur qu'on a très soif en buvant son verre d'eau. Et donc forcément, tout ce qui nous est cher, on le montre aux autres. Et en le montrant aux autres, on s'en libère. C'est comme une sorte de psychanalyse très très lente. Et donc on montre ses angoisses, on montre ses malheurs. Mais dans ce film, la Dolce Vita, ce que j'aime énormément, c'est la fin. Et là qui est un remède contre la mélancolie. Parce qu'il y a donc... sorte de petite partouze minable et tout est vraiment moche, plus moche, et c'est l'aube. Et puis le héros marche sur la plage où ils ont trouvé une sorte de monstre, un poisson horrible. Et puis de l'autre côté, il y a un petit bras de mer et il y a une très jeune fille qu'il a rencontrée dans un café quelque temps avant et qui lui fait un signe. Et cette très jeune fille est tellement merveilleuse et ce signe est tellement beau que c'est tous les espoirs du monde, même s'il ne peut pas franchir ce petit fleuve marin. Mais il l'a vu et elle lui fait ce signe. Et donc, ça, effectivement, c'est le plus beau remède à la mélancolie, c'est que, oui, c'est possible.
Dans un film où la mélancolie est présente dans presque tous les plans.
Oui, c'est un film sur le ratage total, et le ratage de tout le monde. Tout le monde est plus ou moins raté.
Et la société, et autant que le héros, se désabuse.
Celui qui est philosophe et qui pense qu'il a trouvé la vérité, finalement se suicide et tue toute sa famille. Donc même celui-là, qui est le saint homme, si je puis dire, c'est une catastrophe.
Il y a beaucoup de fantômes chez Fellini. Pour vous, Christian Boltanski, la vidéo comme la photo sont des présences, des mémoires qui, au lieu de faire revivre les absents, vont au contraire mettre davantage en évidence leur disparition.
Il y a beaucoup, beaucoup de monde dans l'activité que j'ai. Chez moi, il y a beaucoup de monde. J'ai à peu près 8000 Suisses morts, 6000 bébés polonais, extrêmement sages par ailleurs.
Des abonnés du Club Mickey.
J'ai des abonnés, voilà, du Club Mickey. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde, sans compter tous les vêtements qui représentent pour moi des humains. Et il y a toujours cette chose et ce questionnement, c'est que je pense vraiment que chaque personne est unique, et en cela très important, et qu'en même temps, les gens disparaissent très, très vite. Et qu'on peut se souvenir de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. Et donc, il y a cette sorte de questionnement, comment des gens aussi extraordinaires que tous ceux qui nous ont précédés sont aujourd'hui totalement oubliés. Et donc, j'ai essayé pendant longtemps de ce que j'ai appelé la petite mémoire, de sauver des bribes de gens. Mais en fait, c'est tout à fait impossible. On ne peut rien sauver.
Rien.
Et on dit parfois qu'on meurt deux fois, une première fois, et puis une deuxième fois, quand votre photo, plus personne ne peut vous reconnaître sur cette photo. Et hélas, les gens que j'emploie, enfin que j'emploie, dont j'utilise les images, plus personne en groupe peut les reconnaître. J'ai beaucoup travaillé donc avec les Suisses morts, parce que c'est dans un journal du Valais ou dans les notices écologiques, on met des images de ceux qui sont morts. Et j'avais choisi les Suisses parce qu'ils n'ont pas de raison historique de mourir. Ils sont tous riches, propres, neutres. Et pourtant, on peut le dire aujourd'hui, tous les Suisses meurent. Et donc, il me semblait plus universel que les autres pour cela, parce que je n'aurais jamais pu faire ça avec des Juifs morts ou avec même des Allemands morts. Mais des Suisses, c'est presque risible de mettre Suisse et mort en même temps.
On les voit dans votre rétrospective à Pompidou, Christian Voltanski. Comme dans la Dolce Vita, le rire et les larmes cohabitent dans la citation qui vous appuie. On la retrouve sur le carton qui ouvre le film Lola de Jacques Demy. Rit qui veut, pleure qui peut. Je crois qu'en 2001, vous étiez le parrain de la 8e édition du prix de la Fondation Furla pour l'art et ça récompensait le travail de jeunes artistes et vous avez nommé cette édition d'après la citation de Demy. C'est une citation qui vous travaille.
J'aime beaucoup cette citation et je l'ai employée plein de fois. Et effectivement, c'est plus facile de rire. C'est plus facile de se moquer. Et j'aime pas beaucoup la moquerie. J'aime bien des choses dérisoires, mais pas moqueuses. Tout est dérisoire et mes monuments ne sont pas en bronze ou en marbre, mais ils sont en papier de Noël et tout ça est extrêmement fragile. Mais j'aime pas la moquerie et surtout la moquerie contre des individus.
Voulez-vous rire dans la vie et pouvez-vous pleurer?
Je pleure un peu. Pas très souvent, physiquement, très souvent intérieurement, mais pas très souvent physiquement. Et je ris plutôt, oui, je ris plutôt. Comment dire? Alors, pour parler de notre sujet.
Oui.
La seule chose qui est vraiment un bon remède à la mélancolie, c'est d'inventer des projets. C'est de dire, et souvent de le faire, c'est pour ça que j'aime bien travailler pour des spectacles avec d'autres gens, où on est au café, on boit un coup, et on dit comment faire pour mettre un gros nœud rose à la tour Eiffel et de monter un projet. Et la chose qui m'amuse le plus et la seule chose qui me distrait vraiment. Vous savez, j'ai toujours cette idée que un artiste, surtout à la fin de sa vie, se met à ressembler à son œuvre. Et donc, effectivement, Francis Bacon, quand on voit ses images, ressemblait tout à fait à Francis Bacon. Et Giacometti, c'est exactement une sculpture de Giacometti. Et moi, comme j'ai beaucoup utilisé de boîtes de biscuits, je ressemble de plus en plus à une boîte de biscuits.
Non, je ne suis pas d'accord, Christian Voltanski.
On devient son œuvre. Et donc, la seule chose qui nous intéresse, qui intéresse tous ceux et tous les artistes, c'est leur œuvre. C'est-à-dire, et c'est sans doute plus rassurant que de vivre. Mais en tout cas, on n'est que lié au plaisir de faire quelque chose, de monter un projet. Et évidemment, monter un projet, vous me direz, demain, il faut aller à Roland Bator pour faire une grande exposition, j'en serais absolument enchanté. Je ne connais pas Roland Bator, je suis pas sûr que ce soit le meilleur endroit du monde, mais j'en serais enchanté, simplement l'idée qu'il faut y aller, qu'il faut monter quelque chose, qu'on va rencontrer des gens, qu'on va parler, qu'on va avoir des problèmes. C'est une chose qui évidemment, permet d'oublier, comme je le disais.
Pour danser avec le plaisir, le soleil, les orages, pour échapper aux souvenirs, dangereux marécages,
Les voyages de Jeanne Moreau pour introduire le remède suivant, Christian Boltanski, les vols long courrier, car on y est intouchable et hors du temps. Dans une autre interview, vous dites au sujet des vols long courrier, on est comme mort. Ça ne vous fait pas peur?
Non, ce qui est merveilleux dans les vols long courrier, effectivement, moi je suis parfois assez anxieux et chaque sonnerie du téléphone me fait peur. Et là, le téléphone est coupé. On ne sait pas si c'est le jour ou la nuit. Généralement, moi, j'ai un peu bu. Et puis, je vois des films tout à fait idiots que je n'oserais pas voir à Paris. Je lis des journaux tout à fait idiots que je n'oserais pas lire à Paris. Et je suis dans une sorte de somnolence sans savoir où je suis, quelle heure il est. Je sais simplement qu'il y en a pour 12 heures ou 14 heures. Et que je somme, j'ai une tas de somnolence. Mais où je peux là pas beaucoup penser, pas beaucoup m'inquiéter. Et je n'ai qu'à attendre. Et effectivement, peut-être que Il y a une chose jolie que quelqu'un m'a dit sur les avions et la mort. Son père était en train de mourir et il lui dit, tu sais papa, c'est pas grave, c'est comme quand on prend l'avion. Parce que avant de prendre l'avion, on a peur de pas avoir son ticket, puis d'oublier sa valise. Puis une fois que l'avion part, ça y est, on est bien. Et moi, je ressens toujours ça. C'est-à-dire que, effectivement, j'ai une sorte d'anxiété de laisser des gens que j'aime derrière moi, de est-ce que j'ai pas tous mes papiers et tout ça. Et dès que l'avion part, ça y est, on est parti.
Il y a malgré tout une sorte de paradoxe dans ce choix, Christian Boltanski, puisque vous qui êtes obsédé par la mort et par le temps qui passe, je pense notamment à l'horloge qu'il y a dans la crypte de la cathédrale de Salzbourg qui égrène le temps qui passe, vous êtes d'un coup dans un avion pendant plusieurs heures, parfaitement impuissant, et donc à l'opposé de ce qui vous console réellement, c'est-à-dire les projets, l'action, la rencontre. On est impuissant dans un avion, vous ne vous dites jamais « quel temps je perds ?»
Non, parce que quand je prends ces avions, c'est pour aller faire quelque chose. Donc je sais que le lendemain, je vais voir plein de gens, je vais avoir plein de petits ennuis. Je ne voyage jamais pour le plaisir. Donc c'est toujours pour un but précis, et c'est un but précis qui m'amuse. Donc c'est une sorte de moment un peu en marge de la vie. Et il y avait un livre de Pierre de Mondrillac que j'ai lu il y a 80 ans, qui s'appelle « La marge ». Et c'est un petit peu ça, comme ça on est entre deux vies.
Vous l'avez lu il y a 80 ans ?
À peu près, je l'ai lu très jeune.
Dans un instant, on parlera de souvenirs, le temps d'écouter un titre de la playlist France Inter, Céleste, She's My Sunshine. She don't wanna see me look down. She's the one to help me up when I fall. See me rise now, see me rise now. And every time my head's in the cloud, she saves me from myself. Sunshine. Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de Christian Boltanski.
Je me souviens que mon oncle avait une 11 chevaux immatriculée 70-70 RL2. Je me souviens du cinéma Les Agriculteurs et du fauteuil club du Caméra et des sièges à deux places du Panthéon. Je me souviens de Lester Young au club Saint-Germain. Il portait un complet de soie bleue avec une doublure de soie rouge. Je me souviens de Ronconi, de Brambilla et de Jésus Mujica et de Zaaf, l'éternelle lanterne rouge. Je me souviens qu'Art Tatum a plein un morceau « Sweet Lorraine » parce qu'il avait été en Lorraine pendant la guerre de 14-18.
On entend la voix de Georges Perec, Christian Boltanski, l'auteur de votre sérum littéraire, évidemment, « Je me souviens ».
Je me souviens, c'est un peu une évidence pour moi. Mais ce qui est beau, c'est que d'ailleurs, il y a quelques pages à la fin du livre qui sont des pages blanches sur lesquelles on peut écrire ses propres « Je me souviens ». C'est qu'en gros, bon, Perec était un peu plus vieux que moi, mais que tout de même, pour une génération, ça touche à peu près tout le monde. Par exemple, je me souviens de, c'est le cas de le dire, que dans ce livre, il y est écrit « Claudia Cardinal était née à Tunis ». Et ce que je sais, forcément, je sais ça. Et donc, il y a des centaines de choses que je sais. Et donc, il y a ce plaisir de retrouver constamment des choses qu'on sait et qu'on a oubliées. En fait, je pense que la plupart des gens savent tout. Mais c'est enfoui. Et donc, le rôle d'un artiste, c'est comme de souligner un mot dans un texte. C'est de le faire revenir quelque chose que l'on connaît.
Christian Boltanski, je me rends compte en vous écoutant que cette idée de dualité, tout à l'heure on parlait de la dualité de l'homme, elle est présente dans absolument toute votre œuvre et toutes vos idées, puisque vous faites des monuments pour les vivants, vous essayez de garder des fragments de vie, donc vous honorez la mémoire et en même temps vous dites que c'est heureusement parce qu'on oublie qu'on peut survivre.
On est obligé d'oublier. Nous avons une telle masse d'humain, que forcément, je me dis toujours que, par exemple, si je prends le métro, je pourrais tomber amoureux de la personne qui est en face de moi. En tout cas, lui parler, toute personne est remarquable, toute personne est prodigieuse. Mais heureusement que décemment, on ne peut pas le faire, parce que ce serait épuisant. Si on commençait à regarder chaque personne comme une personne merveilleuse, on ne pourrait plus rien faire. Et sans comparaison directe, mais avec une petite comparaison, David Walsh, donc, qui a acheté ma vie, il ne peut pas regarder la vie de quelqu'un et vivre. Et donc, il est obligé de payer quelqu'un qui me regarde. Et donc, il y a forcément ce problème que chaque personne est admirable, chaque personne est aimable, mais on n'a pas le temps.
Dans le livre d'entretien « La vie possible » de Christian Boltanski, d'abord, ça commence par des souvenirs d'enfance. Et quand on entend la vie possible de Christian Boltanski, est-ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a une vie que vous regrettez de ne pas avoir vécue?
C'est toujours une chose, on rêve toujours d'avoir eu plusieurs vies. Alors plus on vieillit, plus on sait que les autres vies sont pas possibles. Il y a peu de chances que je devienne trappeur au Canada. Il y a peu de chances que je devienne boulanger à Bratislava. Mais tout ça aurait sans doute été passionnant et merveilleux. Et le fait que j'ai mon activité, je pense toujours que si j'étais né en Amazonie, j'aurais été chaman. Si j'étais né en Ukraine, j'aurais été rabbin. Et c'est un peu le fait que je sois né à Paris au XXe siècle qui a fait que je suis artiste et que c'est ma manière de m'exprimer. Mais je pense qu'il y a effectivement pas mal de possibilités. Et peut-être une des choses malheureuses de vieillir, c'est que ces possibilités se raréfient. Il y a de moins en moins de chances pour que je parte m'installer au pôle Sud. C'est possible, je pourrais le faire, mais il y a peu de chances.
Êtes-vous un être nostalgique, Christian Boltanski?
Je ne crois pas que je sois nostalgique parce que c'est le futur qui m'amuse. C'est la prochaine exposition. L'exposition, par exemple, qui est actuellement au Centre Pompidou, je ne peux plus y aller, j'ai horreur d'y aller. Dès le lendemain de l'ouverture, elle n'est plus à moi. Elle n'est plus à moi et elle ne me plaît plus. Il y a plein de choses que j'aimerais échanger. Et donc, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la prochaine. Je pars dans 3 jours pour un projet. Et donc, c'est ça qui m'intéresse. L'exposition de Pompidou, c'est presque comme une sorte de blessure. Et normalement, j'expose donc beaucoup à l'étranger et je pars toujours le lendemain du vernissage pour plus y penser.
Ça vous fait ça avec chaque exposition?
Oui, toujours. Toujours de fuir. Et j'adore installer l'exposition. C'est les moments les plus heureux de ma vie. Parce que là, on est en groupe. Et puis, on sait qu'on doit finir à une date précise et on avance. Et Truffaut dit une chose très jolie dans La Nuit américaine, il dit « Quand on commence un film, c'est comme un train qui avance. » Et donc là, c'est comme un train qui avance et c'est vraiment les périodes les plus heureuses. Et au Centre Pompidou, j'étais avec des gens merveilleux tous et c'était vraiment une période formidable. Puis c'est fini. Et alors, généralement, on a un peu une crise de dépression après. Mais ça, c'est parce qu'on se trouve dans le vide. Mais il faut repartir très très vite ailleurs.
Christian Boltanski, vous utilisez des matériaux fragiles délibérément et la majorité de vos œuvres sont détruites après les expositions. Ça ne vous rend jamais mélancolique, ça ? C'est une petite mort ?
Non, parce que je vais souvent au Japon et par exemple au Japon, tout est toujours refait. Et chez les shintoïstes, ils font des très grands temples qui ont 600 ans et tous les 20 ans, ils les rasent et on les recommence. Et donc je pense que c'est un peu comme des partitions musicales ce que je fais, et on peut les rejouer, et de manière un peu différente, et les transformer un petit peu, les améliorer un peu. Et j'espère que plus tard, on dira, c'est une œuvre de Boltanski interprétée par Madame Machin ou Monsieur Machin, et qui a été bien interprétée ou mal interprétée.
Dieu qu'il a fait bon regarder dans trois chansons de Charles d'Orléans, de Debussy, interprétées par l'ensemble Les Essentiels et le Chœur de Namur. Nous voulions, Christian Boltanski, un air céleste pour affleurer votre idée consolatoire. Je vous cite, « Cherchez Dieu et surtout ne pas le trouver ». Vous avez été élevé dans le catholicisme et vous dites « Sans être croyant, je m'intéresse beaucoup à la théologie, la religion chrétienne me passionne. Dieu s'étant fait homme, nous possédons une part divine ». Vous vous dites aussi constamment en recherche.
Oui, je pense que tous ceux qui pensent avoir une réponse sont extrêmement dangereux. Et que par contre, être humain, c'est chercher à comprendre. Je dis toujours qu'on est devant une porte fermée, que chacun de nous essaye de trouver la clé qui ouvre cette porte, mais qu'heureusement, il n'y a aucune clé qui ouvre les portes. Mais que être humain, c'est chercher. C'est chercher dans tous les domaines. C'est chercher à comprendre ce qu'on ne pourra jamais comprendre. Et je pense maintenant que les religions, les meilleurs qui sont pour moi le bouddhisme et le judaïsme, parce que c'est des religions qui sont des religions de recherche, mais pas des religions d'affirmation.
Un rabbin vous avait dit, Christian Boltanski, qu'un des noms de Dieu était peut-être.
Oui, j'aime beaucoup cette idée qu'un des noms de Dieu est peut-être. Je trouve ça la chose la plus belle qui soit. Et le fait que je pense que je ne suis d'aucune religion et j'en suis pas capable, mais je pense que le fait de chercher est déjà suffisant pour vivre et pour espérer et pour être. Et donc, les religions qui sont des religions de recherche me semblent les meilleures.
Mais pourquoi fuyez-vous tant la réponse, Christian Boltanski ? Vous n'avez jamais eu une seule fois le désir d'enfin avoir une réponse ?
Quand on a une réponse, on veut la donner aux autres et en cela, on est extrêmement dangereux. Parce qu'ils pensaient avoir la réponse, les chrétiens ont tué beaucoup d'Indiens, pour le bien, on tue toujours pour le bien d'ailleurs. Mais il faut jamais penser qu'on sait. Delphine Raveler, que je connais un peu, qui m'a dit plus ou moins ça, qu'on peut être rabbin et ne pas avoir trouvé Dieu. Et si c'est vrai, je trouve ça splendide. Mais moi, je suis tout à fait incapable d'être même suffisamment en recherche pour pouvoir être dans une religion quelle qu'elle soit.
Mais vous sondez l'univers, Christian Boltanski. Vous avez par exemple interrogé les baleines au nord de la Patagonie en créant des instruments qui imitent une sorte de bruit comme un langage de baleine.
Oui, parce que là, chez les Indiens de cette région, comme dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs, on pense que les Indiens savent le début des temps. Et comme je pose des questions à tout le monde et que personne ne me répond, et j'ai posé cette question aux baleines grâce à des acousticiens qui m'ont fait la parole des baleines et qui a le vent qui vont dans ses trompes et qui est un endroit totalement perdu, mais il y a pas mal de baleines. Naturellement, les baleines ne m'ont pas répondu et je le savais. Mais disons, c'est une sorte de Oui, d'appel désespéré à la nature. Est-ce que au moins la nature peut me répondre? Et j'espère que ces grandes tombes vont s'écrouler dans la mer dans très peu de temps, mais peut-être qu'il restera dans la région qu'un fou est venu et a posé des questions aux baleines. Et donc ce serait suffisant. Aujourd'hui, il m'intéresse plus de créer des légendes ou des mythes que de faire des œuvres plastiques qu'on peut accrocher chez soi. J'ai par exemple cette île au Japon où il y a à peu près 80 000 battements de cœur et où il y a beaucoup de monde qui y va, beaucoup de Japonais y vont.
En pèlerinage pour écouter un cœur aimé.
Mais c'est un pèlerinage pour écouter le cœur de quelqu'un qu'ils ont aimé. Et naturellement, s'ils écoutent le cœur de leur grand-mère qui est morte, ils sentent plus son absence que sa présence. C'est comme de regarder une photographie de quelqu'un, on sent plus son absence que sa présence. Mais il y a cette idée que de créer des nouveaux lieux de pèlerinage et une nouvelle légende. Et même l'histoire de Tasmanie, c'est comme une légende, c'est vraiment un mythe faustien. Est-ce qu'un homme peut hacher la vie d'un autre homme et qu'est-ce que ça veut dire? Et donc tout ce que j'essaye de faire aujourd'hui est plutôt de créer des sortes d'histoires ou de légendes ou de mythes. Et j'ai l'impression que les mythes durent plus que les œuvres.
Parler de durée, il est temps, votre horloge de Salzbourg vient de me le dire, de découvrir vos antidotes musicaux, Christian Boltanski.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Les beaux yeux de Marilou, je suis allé porter au clou ma Remington et puis mon break. J'étais à Francal à bout de nerfs, j'avais pu un copec. Les jours où je me mis avec elle, je perdis à peu près tout. Mon job, la feuille de chou, un scandale qui me donnait le beefsteak. J'étais fini, foutu, échec, et mat aux yeux de Marilou, qui me traitait comme un blanc bec, et me rendait moitié coucou. Oh non, tu peux pas savoir, mec. Il fallait les discothèques et bouffer au kangourou club. Alors je signais des chèques sans provision, j'étais fou, fou. À la fin, j'y vis le caillou comme un melon, une pastèque. Mais maman, je vais pas tout déballer comme ça, aussi sec. Quoi, moi, des mères encore, des clous. Écume varec sur la plage de Malibu.
L'homme à tête de chou de Serge Gainsbourg dans Remède à la mélancolie avec vous, Christian Boltanski. La chanson est inspirée d'une sculpture éponyme de Claude Lalanne acquise par Gainsbourg dans laquelle il se reconnaissait. Vous appréciez Serge Gainsbourg?
Il y a chez lui une sorte d'humour déchirant. Peut-être que je disais que j'étais un minimaliste expressionniste, qui est totalement contradictoire. Et finalement, chez Perec, c'est une chose tout à fait évidente, qu'il a à la fois la règle et le sentiment. Et chez Gainsbourg, il y a une sorte de règle musicale, c'est un très bon musicien, et puis la dérision et le sentiment. Donc c'est peut-être ce mélange, dans tous les cas, de règles, parce que je viens, mon art s'est formé autour des règles du minimalisme et du conceptualisme, et puis du sentiment. J'ai une très jolie histoire qui est mon histoire préférée, alors je peux vous la raconter.
Avec plaisir.
C'est de juifs qui sont connus à Varsovie avant-guerre, puis ils se retrouvent à New York. Et il y en a un qui dit à l'autre, dis-moi en amour, depuis tout ce temps, comment a été ta vie? Et l'autre répond, en un mot, bien. Alors le premier dit, mais dis-moi un peu plus, dis-moi en deux mots, pas bien. Et c'est l'histoire que je préfère. Parce que je pense que c'est toute notre vie, c'est bien et pas bien, selon qu'on approfondit ou qu'on n'approfondit pas. Moi, j'ai une très très bonne vie, mais comme tout le monde, je pourrais dire pas bien.
Je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi. Partout, elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce que le diable emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans sa triste robe de
La solitude, écrite par Barbara en 64 et chantée par Gérard Depardieu en 2017 sur un disque de reprise de 14 morceaux de La Dame en Noir. Christian Boltanski, La solitude est apparue sur l'album Le mal de vivre. Pourquoi avoir choisi cette chanson?
Non, c'est pour embêter le monde, puisque c'était Remède à la mélancolie. Ben donc oui. J'ai essayé de choisir les choses les plus tristes, les plus... C'est simplement dans un mauvais esprit que j'ai. Non, j'adore Barbara et je trouve ça tellement extraordinaire que cet homme, comme ça, qui est un peu perdu, qui est un peu apparemment grossier, arrive à sortir cette chose tellement fragile, tellement délicate. Sensible, tellement belle, tellement délicate. Je trouve que c'est un homme admirable pour ça. Et que là encore, c'est le contraste entre deux choses, et ce que nous sommes tous un peu fragiles et on essaye d'être forts.
C'est la fin des amours dans cette chanson. Cette chanson est magnifique et terrible en même temps.
Je ne pense pas qu'on peut finir les amours, je pense qu'on peut les accumuler.
Ah, c'est joli.
Król David. Co zrobił król David?
Nie wiem.
Król David zesy. Umdada zestarzał się.
Król David zestarzał się.
Korona Dawida. Absalom zelżył Dawida.
Tak go zelżył.
Gdzie? 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 Gdzie?
Arka.
Gdzie Arka? Gdzie Arka? Z Jordan przez Cedron. Absalom zelżył Dawida.
Extrait de la pièce La classe morte, créée par Tadeusz Kantor en 1975 et inspiré de la pièce Tumeur cérébrale de Witkiewicz. On entend la captation de la représentation donnée à Chaillot en 89. Alors, je vais traduire, mais je ne suis pas sûre que ça aide à la compréhension. Il y a un instituteur qui demande à la classe et le roi David, qu'en savez-vous du roi David? Les élèves répondent, il a chié ton père. L'instituteur, David a achevé son règne, Absalom a offensé David. Un brouhaha, où est l'arche? Absalom a offensé David. Oh, Absalom, Absalom. Christian Boltanski, comment décrire cette pièce aux auditeurs?
Alors d'abord, c'est à Chaillot en 89 que j'ai rencontré Cantor pour la première fois. Et cette pièce, c'est l'idée qu'il avait que nous avons tous un enfant mort que nous portons.
Puisque dans la pièce, ce sont
et
des vieillards.
Et donc ce sont des vieillards qui sont dans une salle de classe et ils ont un pantin qui est derrière eux, une poupée, qui est eux enfants. Et c'est une chose profonde que je sais, que je pense et que je sais, que nous avons tous un enfant en nous et que petit à petit nous l'oublions. Et que peut-être qu'un des rôles d'un humain, ou en tout cas d'un artiste, c'est de se rappeler cet enfant.
Et pourtant pour vous, Christian Boltanski, l'art est une chose sérieuse.
L'art est une chose sérieuse parce que l'art pose des questions et donne des émotions, en principe. Et donc, c'est très... Mais avoir une émotion, c'est aussi se distraire. Et donc peut-être que ça distrait. Mais pour revenir aux enfants, il y a une chose que j'aime beaucoup dans la tradition juive, c'est qu'il semblerait, mais je ne connais pas grand-chose, que les enfants savent tout dans le ventre de leur mère. Et quand ils naissent, il y a un ange qui arrive et qui leur fait « et c'est pour ça qu'on a un petit trait là, et qu'on oublie tout, et qu'ensuite, toute notre vie, on va essayer de se souvenir de ce savoir qu'on avait dans le ventre de sa mère. » Et je trouve ça une chose tellement belle, et effectivement, de cet enfant qui est en nous, le petit Christian, je commence à l'oublier. Mais il est encore là, mais forcément, il commence à partir petit à petit.
Pourtant, l'enfance chez vous, on le retrouve beaucoup, notamment dans votre rétrospective à Pompidou, Christian Boltanski. Il y a beaucoup de pièces qui impliquent des élèves, des enfants. Et puis, vous avez dit dans une interview, vers 22-23 ans, j'ai pris conscience que j'avais définitivement perdu mon enfance. Je l'ai ressenti de manière tellement douloureuse que j'ai alors cherché à réunir les objets qui restaient de cette période. Mais presque tout avait disparu.
Il est sûr qu'on meurt tous les jours et que, en tout cas, l'enfance, c'est la première partie de nous qui mourons. Et donc, j'ai essayé d'arrêter ce temps qui était parti et j'ai compris qu'on ne pouvait pas l'arrêter. Et donc, quand j'ai essayé de retrouver les traces de cette période-là, il n'y avait presque plus rien. Et effectivement, symboliquement, ça voulait dire qu'il n'y avait presque plus rien. Et donc, l'enfance est pour moi importante comme une sorte de, en même temps, de lieu de connaissance, mais de connaissance qui disparaît petit à petit. Et d'être artiste, c'est aussi proche d'être un enfant par certains côtés, parce que on se raconte des petites histoires.
Tant que nous sommes vivants, l'enfant n'est pas tout à fait mort. Christian Boltanski, merci beaucoup d'être venu dans cette émission. La rétrospective de votre œuvre Faire son temps est visible au Centre Pompidou jusqu'au 16 mars 2020. Votre spectacle Fausse, réalisé avec le designer lumière Jean Kalman et le compositeur Franck Kravchik en coproduction avec l'Opéra Comique, sera joué dans le parking souterrain du Centre Pompidou les 10, 11 et 12 janvier prochains. Le catalogue et l'album de la rétrospective ont été publiés aux éditions du Centre Pompidou avec l'ouvrage Personne, c'est un ouvrage collectif. En famille, chers auditeurs, la programmation musicale, les remèdes sont sur le site de l'émission. J'espère que vous êtes aussi réjouis qu'un origan farceur. Allez voir l'étymologie d'origan, vous verrez que c'est enviable. On se retrouve dimanche prochain à 10h10 pour découvrir de nouveaux remèdes.